On a appris récemment le retour du Français Olivier Grondeau après 3 ans de captivité en Iran. 3 ans à être emprisonné, c'est ce qu'a vécu Daniel Larib, qui a été otage de Al-Qaïda pendant 3 ans et qui nous fait l'honneur de venir témoigner ici. Alors, bonjour Daniel.
Bonjour Yola.
Alors d'abord, les circonstances ne sont pas tout à fait les mêmes parce que celui qui a été libéré et ceux qui sont actuellement prisonniers en Iran, c'était des voyageurs. Alors que vous, vous étiez sur place pour votre métier. Alors qu'est-ce que vous faisiez en Afrique ?
Ben, j'étais un des directeurs de la mine d'uranium d'Arlit au Niger, au nord du Niger.
Alors, directeur de la mine d'uranium, parce que vous avez un parcours, vous êtes scientifique.
Oui, je suis un géologue de formation. Et puis après, comme on dit, j'ai mal viré. Je suis passé dans la recherche minière et puis l'exploitation minière. Mais enfin, il en faut bien.
Ben voilà, il en faut bien parce que... Et donc, vous étiez sur place. Donc, c'était au Niger que vous étiez.
Oui, c'était au Niger. Bon, nous y avions fait un précédent séjour de 3 ans, puis nous étions partis en Namibie, toujours dans le cadre professionnel, puis nous étions revenus, et puis là, nous avons été enlevés 2 mois après notre retour.
Et donc, les circonstances de l'enlèvement, est-ce que vous aviez senti des tensions avant, ou est-ce que c'est arrivé comme ça, comme un coup de foudre?
C'est un peu arrivé pour nous comme un coup de foudre, mais en fait les autorités étaient un petit peu au courant de ce qui se manigançait. Ils avaient intercepté des messages radio, donc le renseignement français avait intercepté des messages radio, et puis ça a dû passer dans la chaîne d'exploitation gouvernementale.
Vous n'avez pas été prévenu?
Non.
Ah.
Alors que 3 semaines avant notre enlèvement, il y avait des messages, ils avaient intercepté des messages qui affirmaient clairement qu'ils menaçaient d'enlever des expatriés et puis s'en prendre à une caserne militaire nigérienne.
Oui, ça aurait été sympa d'être prévenu. Enfin,
bon. Ah oui, mais bon, on est dans un monde où on ne sait pas tout.
Alors, est-ce qu'il y a eu des... Donc, vous étiez au Niger, vous étiez donc un groupe de Français. Est-ce qu'il y avait des tensions avec les musulmans? Est-ce qu'il y avait des problèmes religieux entre vous? Est-ce qu'il y avait des gens qui manifestaient
Non. Je veux dire que c'était assez calme. Il n'y avait pas trop de dissensions. Bon, c'est vrai que il y avait un petit problème, c'est que je veux dire que il y a la vieille garde qui a été remplacée petit à petit par des cadres beaucoup plus jeunes, et vis-à-vis, je pense que des cadres nigériens, ça a été mal ressenti.
Vous voulez dire au niveau de l'usine?
Enfin, de la mine même.
Oui, de la mine même.
Oui. Je pense parce que, bon, ils ne comprenaient pas. Mais bon, c'était une volonté du groupe Areva, mais je pense qu'ils ont peut-être changé un peu trop rapidement. Parce qu'en Afrique, quand même, l'âge a une importance.
Ah oui.
Et quand vous avez des personnes qui arrivent, qui ont un âge et puis qui commencent à discuter un peu trop avec des personnes âgées africaines, ça passe moins bien.
D'accord. Alors, on va voir votre enlèvement. J'espère que c'est pas trop, trop difficile d'en parler. Bon, ça fait 10 ans. Là, on en reparle parce que justement, il y a cette libération. Donc, vous êtes enlevé comme ça, sans avoir le temps de préparer quelque chose. Vous pouvez quand même faire un bagage.
Non. On est... Enfin, d'abord, moi, je me lève parce que j'étais réveillé par un bruit. Je pense sur le coup que c'est notre chat qui a dû renverser quelque chose. Et puis, au fur et à mesure que je me lève et que je progresse vers le séjour, bon, je suis envahi par le doute. Et puis, quand j'ouvre la porte du séjour, je me retrouve avec 3 armes armées de Kalachnikov qui me tirent par le bras et puis qui m'amènent. Et Françoise vous racontera la suite pour elle.
Ah bon? Et vous n'avez pas le temps de prendre vos lunettes, vos brosses à dents, etc.
Non. On est embarqué en pyjama.
En pyjama?
Oui.
Et on vous emmène, donc vous êtes, vous restez au Niger ou vous êtes emmené ailleurs?
Non, on est emmené directement au Mali. Donc, je peux remarquer qu'ils ont fixé un point GPS sur leur voiture, un cap GPS qui est, qu'on appelle ouest-sud-ouest, 384 kilomètres, et ça va être notre point de chute de la nuit, c'est-à-dire à 20 ou 30 kilomètres de la frontière nigérienne côté malien.
Et là, vous êtes avec votre épouse ou vous êtes tout seul ou vous êtes avec d'autres?
Non, nous sommes 7 à être enlevés.
Donc, des cadres de la mine?
Les autres sont des gens du groupe Vinci, hein, qui travaillent comme sous-traitants sur notre usine. Et moi, je suis le seul d'Areva et accompagné de Françoise.
Votre épouse.
Voilà, mon épouse, oui.
D'accord. Et donc, le groupe, là, il se solidifie, je veux dire, les otages. Il y a une forme de communauté, vous finissez par... parce que vous ne vous connaissez pas trop si vous n'êtes pas de la même équipe.
Non, on se connaît vaguement parce que moi je m'occupais plus de la partie géologique, hydrogéologique et minière, et eux travaillaient sur des travaux de route, des travaux de terrassement, donc j'avais assez peu de contacts et puis j'étais là depuis peu de temps.
Et... vous aviez peur, il y avait de la peur, je suppose qu'il y avait une grande peur dans votre groupe.
Ben, c'est vrai qu'au début, on a cru qu'on était enlevé par des Nigériens, par des Touaregs. Il y avait eu d'ailleurs auparavant un enlèvement d'expatriés par des Touaregs qui avait été relâché 3 jours après. Donc, on espérait au début que c'était des Touaregs, mais finalement, ils parlaient beaucoup arabe, et très vite, on a compris qu'on était aux mains d'Al-Qaïda.
Et donc, votre rétention, donc, vous êtes, qu'est-ce que vous faites toute la journée? D'abord, vous êtes en pyjama, on vous trouve des habits, et comment vous pouvez vous débrouiller? Vous n'avez pas de livre, vous n'avez, qu'est-ce que vous faites?
Ben, on est sur le départ d'un séjour tout compris, hein, all inclusive, hein, l'habillement, la nourriture, ouais. Tout ça. Et donc on nous procure une tenue de Moudjahidine.
Ouais.
Bon, donc on s'habille, on a un sarouel, un camis, et puis on nous interdit de nous raser.
Ouais.
De toute façon, on n'a pas de rasoir.
Oui, donc de toute façon, oui.
Voilà. Et puis on est nourri. On nous amène la nourriture. On doit fabriquer notre abri de fortune pour nous protéger du soleil. On a une couverture, donc on couche à même le sol. Bon, on nous laisse relativement tranquille.
Les conditions sont pas difficiles, difficiles.
Non, je veux dire par rapport aux otages qu'il y a en Syrie ou en Iran.
Oui,
elles sont moins difficiles parce que on est un peu en liberté dans le désert.
Vous n'êtes pas en prison.
On n'est pas en prison, on n'est pas dans des cachots.
Oui.
Mais pour eux, le désert est notre prison.
Oui, vous pouvez pas aller bien loin.
On peut aller, on a le droit de naviguer 100 ou 200 mètres autour du camp, pas trop s'approcher de leur camp même,
ouais.
Parce qu'il y a quand même des armes, et puis voilà, ils nous foutent la paix.
Et donc, vous êtes avec votre épouse pendant combien de temps?
Pendant près de 6 mois.
6 mois. Et après, donc, votre épouse est libérée?
Oui, c'est ça, elle est libérée. Moi, je me retrouve avec Thierry Doll, co-détenu. François est en partie, donc on se retrouve à deux, sachant qu'il y en a 3 autres, mais qui sont dans 4 autres, mais qui sont dans un camp différent. On ne les reverra que 2 ans après.
D'accord. Et donc là, c'est une solitude plus grande. Je suppose que vous êtes soulagé que votre épouse soit partie, mais c'est plus difficile à vivre pour vous.
Oui, mais enfin, je suis quand même soulagé que François soit parti, parce que comme on dit, c'est 50% de l'objectif qui est atteint.
Oui, d'accord. Bon,
c'est peut-être... Bon. Et,
donc, c'est des termes de rentabilité.
Oui, non, mais c'est ça.
On voit là le directeur de...
Non. Mais non, c'est ce que je me dis. Bon, après, j'ai dit à Françoise, bon, je peux tenir encore 6 à 8 mois, vu les conditions que l'on a.
Ouais. Vous lui dites puis... quand même, ne m'oublie pas.
Oui, non, mais enfin, c'est tacite. De toute façon, on n'a pas le temps de se dire, se dire au revoir. On se quitte. Bon, on vient nous annoncer qu'éventuellement, il se pourrait que Françoise soit libérée, tout ça. Françoise, on discute, elle nous dit, je suis pas d'accord. Je lui dis, écoute, de toute façon, peut-être, on te demandera pas ton avis au départ, et puis c'est peut-être pas la peine de faire une crise à ce moment-là. Et puis finalement, la personne qui nous a annoncé ça quelques heures avant, embarque Françoise, elle a même pas le temps de... On n'a pratiquement pas le temps de se dire au revoir. On lui fait un petit au revoir comme ça de la main, elle dans la cabine, en lançant un dernier regard, et puis voilà.
Et donc, après, vous êtes donc à deux, et vous vivez comme ça, toujours pas de livres, pas de...
Non, alors si on a réussi quand même, au bout d'un certain temps, d'avoir accès à un manuel utilisateur de Toyota, en anglais et en
l'anglais,
japonais.
L'anglais, je suppose que vous le pratiquez.
Oui, mais ça m'a permis de me perfectionner en anglais technique. Bon, j'aurais pu apprendre le japonais, mais c'était difficile.
Surtout avec un manuel juste de Toyota,
Bon. Enfin, voilà. Donc, on a eu ça pendant quelques temps. Et puis après, on a pu avoir accès au Coran. Donc, ça a été les deux seuls livres, le manuel Toyota et le Coran.
Le Coran est plus intéressant.
Oui, effectivement. C'était quand même plus simple. Il y avait une traduction en français. C'est quand même plus intéressant, le Coran, parce que, bon, Toyota, ça va.
Alors, on va en reparler du Coran. Vous faites une tentative d'évasion, là. Alors, vous pouvez nous raconter un peu, c'est un peu rocambolesque. D'abord, ça se prépare, parce que, comme vous dites, le désert, c'est une prison. On s'évade pas comme ça.
Oui, effectivement. Et puis, c'est intéressant, parce qu'on a bien mis 4 mois, donc ça nous a occupé pendant 4 mois. 4 mois, on avait réussi à pouvoir se préparer nous-mêmes la nourriture, donc à cuire le pain comme le faisaient nos amis tunisiens dans le voyage.
Oui.
Donc ça, je connais très bien. Et puis, donc on a préparé des provisions et on a fait des stocks un petit peu partout dans différents camps. On a fait des stocks de nourriture. Et puis après, il nous fallait trouver un moyen, enfin déjà, de se diriger dans la nuit. Donc j'avais fait une vague carte du ciel pour pouvoir mieux me repérer, sachant que la Grande Ourse, elle est basse sur l'horizon et qu'on la voit pas tout le temps dans ces pays-là. Quand l'horizon est brumeux en hiver.
Ouais.
Et puis, le dernier truc, c'est fabriquer des chaussures qui nous permettaient de ne pas laisser d'empreintes dans
le sable.
Oui, voilà. Et donc, c'était de ce que j'appelais des raquettes des sables. Donc, c'était
Et l'eau
morceaux. Comment ?
Et l'eau ?
Il fallait la transporter. Donc, on a choisi une période hivernale pour avoir moins besoin d'eau. On voyageait la nuit pour suer moins. Et le jour, on se mettait à l'ombre. Bon, comme c'était au mois de février, la température maximum était de 20 degrés. Donc, la journée était supportable. C'était la nuit qui était très froide. Où là, on avait
le désert est froid. Très froid la nuit.
On avait
une
température de 4 à 6 degrés avec un vent qui s'était levé. Mais bon, comme on marchait, on faisait des efforts physiques.
Et vous n'aviez pas peur de vous perdre? Parce que se perdre dans le désert, c'est quand même angoissant.
Oui, effectivement. Mais comme je disais, j'avais appris, je connaissais rien en astronomie, mais j'ai repéré, par exemple, moi-même, déjà, j'ai calculé la latitude, un solstice d'été, j'ai calculé notre latitude, j'ai estimé qu'on devait être entre 250 et 300 kilomètres au nord de Tombouctou. Je savais qu'on devait être grossièrement au-dessus de la boucle du Niger. Et puis, j'avais repéré notamment, par exemple, la constellation d'Orion que je connaissais pas. Ouais. J'avais remarqué et puis qu'elle.
Mais c'était pas dans le manuel de Toyota, ça. Alors
non, c'était pas. Ah mais non, mais c'est un observant. Non
mais
là,
le. Mais comment vous saviez que c'était Orion? Vous le saviez?
Ah non, je savais pas. C'est un ami qui après, quand je lui ai montré, dis-moi cette flèche là, Colonna, qui indique à peu près le nom, tout ça. Ah ben ça c'est la constellation.
Oui, d'Orion. On n'a pas besoin de savoir que c'est Orion pour se diriger sur Orion.
Non mais genre, on est pratique.
Voilà. Directeur de mine, donc.
Donc bon, et donc voilà, me base là-dessus et je sais que il y a une, à un moment donné, il y a une flèche. Je repère 4-5 étoiles qui donnent une flèche. Et puis en me repérant par rapport au lever et coucher du soleil, et puis que je trace le est-ouest sur le sol et la nuit, je constate que cette constellation, il y a une flèche dedans qui donne en gros le nord. Donc ça me permet de ne pas de se diriger grossièrement, mais de ne pas faire...
De ne pas revenir sur ses pas.
De faire Tintin dans le désert. Enfin, non, ce n'est pas Tintin, ce sont les frères... non, mais...
Je ne sais pas. Enfin, bon, c'est pas...
C'est les deux policiers, là, mais je sais.
Oui, d'accord. oui, ça y est, je vois les Dupont.
Les Dupont, voilà. Oui, voilà.
D'accord. Et donc, cette tentative d'évasion, ça donne quoi, alors? Puisque c'est une tentative, je suppose que ça a raté.
Oui, ça a raté parce qu'on a été dénoncé par un gardien.
Qui vous a vu, donc.
Oui, qui nous a vu. Et là... On n'avait pas laissé de traces à notre départ, et là, ils ont su 24 heures après où on était.
Ouais.
Où on était. On avait un point. Et là, à partir de ce moment-là, ils ont mis le paquet.
Oui.
On peut dire avec des tas de voitures et de méharistes qui nous ont cherchés, et puis ils ont tourné, et puis finalement, on a entendu les voitures pendant plusieurs heures nous chercher, et puis finalement, ils ont réussi à nous trouver. Parce que bon, dès qu'on sait que personne n'allait partir dans une direction, on sait qu'on ne se dirigeait pas vers l'Algérie, qu'on partait plutôt vers le sud. Donc déjà, ça permettait de mieux circonscrire le lieu où nous nous retrouvions.
Ça a dû être terrifiant, cette impression d'être traqué comme ça, avec les voitures qui tournent autour. Enfin, moi, ça me fait penser aux films de guerre.
Ben oui, c'est vrai qu'on n'en remène pas large. On essaie de se cacher le mieux possible. Mais bon, comme ils sont sur des chameaux et puis sur des voitures, ils ont une vue.
Ouais.
Bon, on n'a pas eu le temps de se cacher parce que le compagnon de cellule d'Al-Qaïda, a eu un petit problème, il est tombé un peu dans les vapes, donc on pouvait pas aller se cacher comme on aurait pu, donc on s'est caché dans le lit d'un oued derrière des herbes, mais c'était pas assez haut.
D'accord. Et alors là, vous le payez cher, je suppose.
Pour tout en disant, ça a coûté au retour, ça a été, en gros, c'est 6 implants et 4 couronnes.
D'accord, donc on vous a cassé la gueule.
Oui, en clair.
Voilà, bon. Et donc après, vous reprenez la captivité, et puis on vient vous libérer, donc vous êtes libéré 3 ans après, donc par l'armée française.
Non, il y a eu un négociateur nigérien qui est venu nous récupérer, qui a mené les négociations.
Ouais.
Autant c'est un négociateur français qui était un ancien colonel de la DGSE qui a libéré Françoise. Autant pour moi, ça a été un négociateur nigérien qui était d'ailleurs président d'une des sociétés d'Areva au Niger, qui s'appelle Mohamed Akoté. Qui a continué les négociations, dont la famille était originaire de l'Adrar des Iforas. Donc on peut dire que c'est un Touareg du Niger qui a continué les négociations. Donc on n'avait pas de très bonnes...
Mais vous le saviez qu'il y avait des négociations, vous étiez dans le flou complet?
Au flou complet.
D'accord. Oui. Mais on est venu vous chercher quand même. Il y a eu une petite opération militaire là, non? Puisque
non. Ils ont envoyé un hélicoptère de l'armée nigérienne venu nous chercher au Mali.
Ouais.
Et puis voilà. Bon, dedans il y avait des gens de la DGSE. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a appris qu'on était revenu en France, parce que quand on est monté dans l'appareil, les gens de DGSE nous ont fouillé de pied en cap. J'avais pas confiance. Bon, donc on est retourné aux procédures.
Mais il n'y a pas eu d'opération armée parce que il n'y a pas eu d'intervention.
Non. Non. Après, on a dû quand même essuyer l'intervention servale. Hein.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on était au milieu des combats.
Voilà, c'est ça, bon. Oui.
Donc, l'opération. Mais là, l'opération, elle avait quand même débuté neuf mois avant.
D'accord. C'était pas pour votre libération, c'était autre chose.
Non. Okay. Non, c'était... Oui. Bon, on voulait ramener le calme, oui.
Ça
n'a pas été un succès. Bon, on a quand même malheureusement laissé 51 personnes, ouais. Peut-être plus, pour se faire jeter malproprement. Bon, c'est comme ça.
Et donc, vous revenez en France, vous êtes dans l'avion. On est venu quand même vous chercher avec les honneurs. Vous êtes avec le...
Oh, ben, c'est l'avion présidentiel qui est venu nous récupérer. Il y avait Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Et puis, Le Drian, qui était ministre des Armées. Ils sont venus nous chercher à Niamey. Et puis, nous avons été accueillis par le président Hollande à Villacoublay.
D'accord. Alors là, on va faire une pause musicale et puis on se retrouve ensuite.
Nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Lina mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol, nesse mundo fora, só volte mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol, nesse mundo fora, só Rotimar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Estrela que canta brilhar e na mar boia uma areia que canta molhar. Espanhol nesse mundo fora só rote mar. Teve povo cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Teve sal cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só bate mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná.
Alors, on se retrouve avec Daniel Larib. Je voudrais qu'on parle un petit peu de vous, de votre sensibilité. Alors, vous êtes de sensibilité protestante. Vous êtes marié à une protestante et vous êtes plutôt dans ce milieu-là.
Oui, c'est ça. Bon, on m'a pas demandé mon avis. Moi, j'étais catholique de naissance.
Comme beaucoup.
Et puis, j'avais pris un peu d'écart avec la religion.
Ouais.
Surtout avec, comment ça s'appelle, le clergé.
Oui.
Bon. Et puis le fait de rencontrer Françoise, ça m'a ouvert d'autres horizons. C'est vrai que le clergé est moins sacralisé que chez les protestants, que, enfin, n'est pas
Bien
sacralisé.
sûr, n'est pas sacralisé du
Donc
tout.
déjà, ça me plaisait beaucoup plus. Puis en
Hein?
plus, j'ai lu des propos d'un pasteur qui disait, bon, ben, on peut se demander si c'est... se poser la question de savoir si c'est Dieu qui a créé l'homme à son image ou si ce n'est pas l'inverse.
Oui.
Ouais. Bon, donc déjà, ça me faisait, je rentrais dans le doute et
Ouais.
ça commençait à se faire une construction qui me plaisait. Voilà.
D'accord. Et alors, vous êtes avec des musulmans là-bas, vous êtes en contact, vous lisez le Coran.
Oui.
Comment vous vivez cette coexistence des deux religions? Est-ce que vous en voulez à l'islam? Est-ce que vous en voulez aux musulmans? Est-ce que vous avez, une forme de rancune ou...
Oh non, pas du tout. Hein. Je veux dire qu'ils se sont fait, ils sont des, enfin les gens qui nous gardaient, c'était des gens qui se sont fait manipuler par des religieux, hein, qui lisent le texte peut-être un peu trop littéralement. Hein, mais non, je veux dire que moi, des gens ont le droit d'avoir leur religion. Je n'ai aucune animosité vis-à-vis des musulmans, si ce n'est sur certaines catégories de personnes, mais il y en a dans notre religion, hein.
Ah, il y en a
Il y
partout.
en a
Oui,
partout.
il y en a partout. Et alors, vous êtes quelqu'un du désert, vous êtes quelqu'un de l'Afrique. Donc, cette coexistence entre votre parcours et puis le Coran qui se passe tout le temps en Afrique, enfin
Ouais.
qui est du désert, le Coran. Comment vous ressentez cette familiarité, cette
Je veux dire que ce qu'il y a, c'est qu'en lisant le courage, on commence à repartir un petit peu en arrière, on revient vers l'Ancien Testament.
Oui.
Parce qu'en fait, quand on lit le Coran dans l'ordre chronologique, hein, ça percute qu'il y a une première période qui est très, qui se rapproche de l'Ancien
Oui,
Testament, où on
tout à
parle
fait.
des prophètes, on parle même de Jésus, de Marie, hein, et
Oui.
tout ça. Et puis après, il y a une deuxième période où le prophète quitte la Mecque et puis va à Médine, et où là, on a un Coran politique.
Oui, parce que ça se gâte avec les Juifs.
Oui, ça se gâte. Et là, bon, ben, je veux dire que ça, il faut un petit peu l'occulter, comme un peu comme nous quand on occulte un peu Josué qui rentre en Palestine, et en gros, c'est clair, tuez-les tous et
Oui.
n'épousez pas leurs femmes.
Oui.
Et donc on se retrouve un petit peu,
Oui, dans ce même...
un petit peu, bon, pas tout à fait strictement comparable, mais il y a quelque chose. Donc on prend quand même nos distances par rapport à ces textes.
Et alors donc vous êtes ils n'ont pas essayé de discuter avec vous, vous avez essayé de discuter avec eux, ils savaient que vous étiez chrétien, ils vous posaient la question, ça les intéressait?
Oui, non, mais ils savaient qu'on était chrétiens. D'ailleurs, on avait été choisis parce qu'on était chrétiens,
Oui, mais
supposés chrétiens.
chrétien, parce que vous êtes blanc
Oui.
français, mais est-ce qu'ils savaient que vous étiez quand même, je dirais pas pratiquant, mais enfin que vous aviez une sensibilité non?
Ils savaient rien du tout,
Oui, ça
non.
veut rien du
Ils
tout.
savaient rien du tout. Non, on avait eu des discussions et puis enfin, ils rigolaient quand on disait que. Bon, il y avait chez les chrétiens, il y avait des orthodoxes, des catholiques, des protestants. Et ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment les
Bon,
potards chez vous. Ouais, non,
oui,
mais
chez les musulmans, il y a les chiites et sunnites, et puis n'en
non,
parlons pas.
mais
Oui,
non,
mais peut-être qu'ils ne le savaient pas.
non, mais ils ne savaient pas.
C'est
Non, non, mais
ça.
ils réalisaient pas que
Ouais.
chez eux aussi, il y
Ouais.
avait des dissidences.
Ah ouais.
Voilà.
Oui,
Donc
d'accord.
c'était bon. On n'allait pas rentrer dans les détails parce que sinon, je veux dire, on n'en sortait pas. Je veux dire, le dialogue était, avec Saint-Jean, le dialogue était impossible.
Oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé dans le Coran? Qu'est-ce que d'intéressant
C'est intéressant. Par exemple, bon, je veux dire, bon, moi, il y a des choses qui m'ont, par exemple, touché. Hein. Par exemple, la sourate Mariam, hein, où on parle de la naissance de Jésus-Christ, hein, mais qui est pas cette image de l'étable, avec les mages qui arrivent, tout ça. Là, Marie, elle est toute seule, elle se retire, elle n'a pas le droit de parler. Enfin, il y a quelque chose de mystique derrière ça.
Ouais.
Hein. Après, il y a le sacrifice d'Abraham.
Oui.
Hein. Bon, ben, Isaac, chez les musulmans, est au courant qu'il va être sacrifié.
Mm.
Hein. Alors que dans l'Ancien Testament, il ne le sait pas. Donc, il y a des choses comme ça qui me touchent beaucoup plus.
D'accord. D'accord. Et le désert, alors, vous êtes toujours, vous n'avez pas peur de retourner dans le désert, de retrouver ce milieu quand même qui a été votre prison?
Oui, ben, oui et non. On aimerait y retourner. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a visité des pays comme des pays de désert de l'Asie,
hein, ouais.
Parce que là, bon, il y avait moins de problèmes. On aurait bien aimé revenir, par exemple, au Mali ou au Niger, mais bon, je pense que ça aurait été mal pris.
Peut-être pas se faire enlever une deuxième fois.
Oui. Non, je pense qu'on aurait mal apprécié la chose. Et
le ministère des Affaires étrangères serait peut-être moins chaud pour venir vous chercher.
Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que la dernière fois, ce voyage en Tunisie, c'était finalement...
Oui, vous avez fait un voyage en Tunisie dans le désert.
Dans le désert. Bon, c'était des pays qu'on ne connaissait pas. Il y a moins de tensions en Tunisie, parce qu'il y a quand même une communauté juive, je veux dire, qui est installée, qui s'appelle à Tunis. Il y a moins de problèmes. Ça bouge pas trop depuis quelques temps. Bon, ça a bougé dans le passé, il y a eu des attentats. Mais là, en plein désert, on a fait confiance, je veux dire que bon, on était avec des gens charmants.
Et alors je voudrais revenir, là ça me revient, vous m'aviez dit lors d'un entretien préparatoire que vous chantiez dans votre tête, c'est quoi le chant que vous chantiez?
Oui, alors c'était « À toi la gloire ».
À toi la gloire, voilà.
Et ça c'était, comme je tenais un calendrier, je savais toujours, hein,
ah oui.
À quelle date commençait l'Assemblée du désert.
Alors, donc, l'Assemblée du désert, il faut préciser à nos auditeurs qui ne sont pas protestants et qui ne le sauraient pas, que c'est le premier dimanche de septembre, une grande messe, si on peut dire, pour des protestants, commémorative à Mialé, donc sous les châtaigniers, voilà. Alors, allez-y.
Voilà. Et donc,
et où on chante à toi la gloire et la Cévenole.
Ben, à la fin.
Oui.
Clos. Et donc, je revivais tous les ans, à cette époque-là, le premier dimanche de septembre, je revivais cette cérémonie. Donc, je revoyais les amis, les parents qui revenaient nous voir à la maison de Possan, on allait à pied à l'assemblée, on rencontrait les gens, tout ça. Et puis, je revivais le culte avec les pasteurs qui en robe défilent, arrivent, bon. Et puis, puis la fin avec l'apothéose, c'est à toi la gloire. Et là, moi, toute la journée là-bas, je revivais ça, et puis je chantonnais à toi la gloire. Les autres ne comprenaient rien, sauf que il fallait pas que je chante trop haut parce que c'est mal vu de chanter.
Ah bon?
Ah oui.
D'accord. Oui, parce qu'il faut préciser donc que l'Assemblée du désert se tient à Mialé et que votre épouse est de Mialé et que vous y allez souvent. Vous avez une maison là-bas.
Oui, nous avons une maison là-bas. Françoise a été conseillère presbytérale, enfin présidente du conseil presbytéral de Mialé pendant 4 ans. Et puis voilà, donc on a des attaches en Cévennes. Puis donc on revient là-bas. Je m'occupe entre autres personnellement de recherche sur les sources, enfin les circulations d'eau souterraine, et c'est ce que j'appelle mon retour aux sources.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se séparer. Je vous remercie de votre témoignage. C'était gentil de venir parce que je sais que vous n'avez pas accordé énormément d'interviews. Alors, c'est un honneur dont nous sommes fiers. Alors, merci Daniel Laribe. Et puis, merci à nos auditeurs. À bientôt. Au revoir.